Chapitre 3. La cité des carillons.
Un homme se tenait au bord d'une falaise et regardait sa patrie tomber en poussière. Les eaux montaient en dessous, si loin, et il entendait un enfant pleurer. C'étaient ses propres larmes. Recueilli le 4 Tanat de l'an 1171, 30 secondes avant la mort. Le sujet était un cordonnier d'une certaine renommée.
Carbrante, cité des Carillons, n'était pas une ville que Chalan avait imaginé visiter un jour. Bien qu'elle ait souvent rêvé de voyage, elle s'était attendue à passer sa jeunesse séquestrée dans le manoir familial, dont elle ne s'échapperait que grâce aux livres de la bibliothèque de son père. Elle s'était attendue à épouser l'un des alliés de son père, puis à passer le restant de sa vie séquestrée dans son manoir à lui. Mais les attentes étaient comme la poterie fine. Plus on s'y accrochait, plus elle risquait de se fendiller. Le souffle coupé, elle serrait contre elle son carnet de croquis relié cuir, tandis que des débardeurs tiraient le bateau vers le quai. Carbrante était immense. Bâtie sur le flanc d'une pente raide, la ville était de forme triangulaire allongée, comme si elle était construite dans une large fissure, avec la base tournée vers l'océan. Les bâtiments étaient massifs, avec des fenêtres carrées, et semblaient avoir été construits à partir de boue ou d'enduit. Du crémant, peut-être. Ils étaient peints de couleurs vives, rouges et oranges la plupart du temps, mais parfois aussi jaunes et bleus. Elle entendait déjà les cloches qui tintaient au vent, résonnant de leur voix pure. Elle dut tendre le cou pour regarder le bord le plus élevé de la ville. Carbrante évoquait une montagne dressée au-dessus d'elle. Combien de gens vivaient dans un endroit comme celui-ci? Des milliers? Des dizaines de milliers? Elle frissonna de nouveau, intimidée mais surexcitée, puis cligna des yeux avec insistance afin de fixer l'image de la ville dans sa mémoire. Des marins allaient et venaient avec empressement. Le plaisir du vent était un étroit navire à un mât, à peine assez grand pour elle, le capitaine, son épouse et l'équipage d'une demi-douzaine de têtes. Il lui avait semblé minuscule au départ, mais le capitaine Tosbeck était un homme calme et prudent, un excellent marin, bien qu'il soit un païen. Il avait guidé le navire avec soin le long de la côte, trouvant toujours une crique abritée pour étaler la tempête. Le capitaine surveillait le travail tandis que les hommes amarraient le navire. Tosbeck était un individu de petite taille, à la même hauteur d'épaule que Chalan, et il portait ses longs sourcils blancs de taille-laine dressés selon un étrange motif en pointe. C'était comme si deux éventails s'agitaient au-dessus de ses yeux, longs de 30 cm chacun. Il portait un simple bonnet de laine et un manteau noir aux boutons d'argent. Elle avait imaginé qu'il devait la cicatrice de sa mâchoire à une furieuse bataille en mer contre des pirates. La veille, elle avait appris à sa grande déception qu'elle avait été causée par du matériel mal attaché lors d'une tempête. Son épouse, Ashlev, descendait déjà la passerelle pour aller déclarer leur navire. Le capitaine vit Chalan en train de l'étudier et s'approcha donc. C'était une relation d'affaires de sa famille, à qui son père faisait confiance depuis longtemps. Une bonne chose, puisque le plan qu'elle avait concocté avec ses frères ne lui permettait pas d'emmener une dame de compagnie ou une nourrice. Ce plan rendait Chalan nerveuse, terriblement nerveuse. Elle détestait faire preuve de fourberie. Mais la situation financière de sa famille... Ils avaient besoin d'un apport spectaculaire de richesses ou de tout autre avantage dans la politique locale des maisons Védène. Autrement, ils ne tiendraient pas l'année. « Chaque chose en son temps », songea Chalan, s'obligeant à rester calme. « D'abord, trouver Jasna Colline. À supposer qu'elle ne soit pas encore partie sans toi. »
« J'ai envoyé un valet en votre nom, Clarissime, » déclara Tosbeck. « Si la princesse se trouve encore ici, nous le saurons bientôt. »
Chalan hocha la tête, reconnaissante, serrant toujours son carnet à dessin. Dans la ville, il y avait des gens partout. Certains portaient des habits familiers, pantalons et chemises lacées à l'avant pour les hommes, jupes et blouses colorées pour les femmes. Ces tenues auraient pu provenir de sa patrie, Jacques Évède. Mais Carbrante était une ville libre. Une petite ville est apolitiquement fragile,
qui occupait un territoire restreint, mais possédait des quais ouverts à tous les navires de passage et qui ne posait aucune question sur votre nationalité ou votre statut. Les gens y affluaient. Par conséquent, une grande partie des gens qu'elle voyait étaient exotiques. Ces pagnes désignaient des hommes et des femmes originaires de Tachik, loin à l'ouest. Les longs manteaux qui descendaient aux chevilles, mais étaient ouverts à l'avant comme des capes, d'où venaient-ils? Elle avait rarement vu autant de parches que ceux qui s'affairaient sur ces quais, transportant de la cargaison sur leur dos. Comme les parches qu'avait eues son père, ceux-là étaient robustes, avec les membres épais et cette étrange peau marbrée. Certaines parties étaient pâles ou noires, d'autres d'une vive nuance cramoisie. Ce motif était propre à chaque individu. Après avoir pourchassé Jasna Colline de ville en ville pendant près de 6 mois, Shallan commençait à penser qu'elle ne la rattraperait jamais. La princesse l'évitait-elle? Non, ça ne semblait guère probable. Shallan n'était tout simplement pas assez importante pour qu'on l'attende. La clarissime Jasna Colline était l'une des femmes les plus puissantes au monde, ainsi que l'une des plus tristement célèbres. La seule hérétique déclarée au sein d'une maison royale dévote. Shallan s'efforça de ne pas devenir nerveuse. Elle allait très probablement découvrir que Jasna était déjà repartie. Le plaisir du vent resterait à quai pour la nuit. Et Shallan négocierait un tarif auprès du capitaine, avec une forte remise, grâce aux investissements de sa famille dans le transport maritime de Tosbeck, pour qu'il l'emmène au port suivant. Voilà déjà des mois qu'ils avaient dépassé le stade où Tosbeck avait cru être débarrassé d'elle. Elle n'avait jamais perçu de ressentiment de sa part. Son honneur et sa loyauté le poussaient à accepter toutes ses demandes. Cependant, sa patience ne durerait pas éternellement, et son argent à elle non plus. Elle avait déjà utilisé plus de la moitié des sphères qu'elle avait emportées. Il ne l'abandonnerait pas dans une ville inconnue, bien entendu. Mais il l'insisterait peut-être à regret pour la ramener à Védénar.
Capitaine !
Dit un marin en remontant la passerelle avec empressement. Il ne portait qu'un gilet et un pantalon ample et possédait la peau hâlée de ceux qui travaillent au soleil.
« Pas de message, capitaine. D'après le bureau d'enregistrement, Jasna n'est pas encore partie. »« Ah !»
s'exclama le capitaine en se retournant vers Shallan.
« La chasse est terminée !»«
Les héros soient loués !» dit Shallan tout bas. Le capitaine sourit, et ses sourcils flamboyants évoquaient des rayons lumineux jaillis de ses yeux.
« Ça doit être votre magnifique visage qui nous a amené ce vent favorable. »« Les sprennes du vent eux-mêmes étaient en extase devant vous, clarissime Shallan, et nous ont conduits ici. »
Shallan rougit, estimant que cette réponse n'était pas exactement convenable.
« Ah !» dit le capitaine en la montrant du doigt. « Je vois que vous avez une répartie. Je le lis dans vos yeux, jeune demoiselle. Crachez le morceau. Les mots ne sont pas censés rester à l'intérieur, voyez-vous. » Ce sont des créatures libres qui dérangent l'estomac lorsqu'elles sont enfermées.
« Ce n'est pas très poli, » protesta Shallan. Tosbeck éclata d'un rire sonore.
« Après des mois passés à bord, vous dites encore ces choses-là.
Je passe mon temps à vous répéter que nous sommes des marins. Nous oublions la politesse dès l'instant où nous mettons le pied sur un bateau. Nous sommes déjà bien au-delà de tout espoir de rédemption. » Elle sourit. Elle avait été élevée par des nourrices et des tutrices austères qui lui avaient appris à tenir sa langue. Malheureusement, ses frères l'avaient encouragée à faire le contraire avec une égale détermination. Elle avait pris l'habitude de les distraire par des traits d'esprit quand personne d'autre ne se trouvait dans les parages. Elle se rappelait avec nostalgie les heures passées près du foyer crépitant de la grande salle, avec les 3 plus jeunes de ses 4 frères, pelotonnés autour d'elle pour l'écouter se moquer du nouveau flagorneur de son père ou d'un ardent de passage. Elle avait souvent conçu des versions idiotes de conversations destinées à remplir la bouche des gens qu'ils voyaient sans les entendre. Ils avaient implanté en elle ce que ses nourrices qualifiaient de tendance à l'insolence. Et les marins étaient encore plus amateurs de traits d'esprit que ses frères.
« Donc, » dit Shallan au capitaine, les joues rouges mais impatientes de parler malgré tout, « voilà ce qui vient de me traverser l'esprit. » Vous affirmez que c'est ma beauté qui a persuadé les vents de nous faire arriver si rapidement à Carbrant. Mais est-ce que ça ne sous-entend pas que, sur d'autres trajets, c'est à cause de mon absence de beauté que nous sommes arrivés en retard?
Eh bien,
Donc en réalité, dit Shallan, vous me dites que je suis belle très exactement 1/6 du temps.
Ne dites pas de bêtises,
Jeune demoiselle, vous ressemblez à une aurore, ça oui. »
Une aurore ? Vous voulez dire que je suis entièrement cramoisie ?
Elle tira sur ses longs cheveux roux.
Et que j'ai tendance à rendre les hommes grincheux lorsqu'ils me voient ?
Il éclata de rire, et plusieurs des marins proches l'imitèrent.
« Bon, d'accord, » dit le capitaine Tosbeck. « Vous ressemblez à une fleur. »
Elle grimaça.
« Je suis allergique aux fleurs. »
Il haussa un sourcil.
« Pas vraiment, » avoua-t-elle. « Je les trouve captivantes. Mais si vous deviez me donner un bouquet, vous me trouveriez bientôt en proie à une crise si énergique qu'elle vous obligerait à inspecter les murs en quête de taches de rousseur que j'aurais fait jaillir à force d'éternuement.
Eh bien, quoi qu'il en soit, je persiste à dire que vous êtes aussi jolie qu'une fleur.
Si c'est le cas, alors les jeunes hommes de mon âge doivent être affligés de la même allergie, car ils gardent une distance notable par rapport à moi. »
Elle grimaça.
« Vous voyez ? Je vous avais dit que ce n'était pas très poli. Les jeunes femmes ne devraient pas agir sous le coup de l'irritation. »
« Ah, jeune demoiselle !» répondit le capitaine en inclinant son bonnet vers elle. « Votre sens de la répartie va nous manquer, aux garçons et à moi. Je ne sais pas trop ce que nous ferons sans vous. »«
Vous naviguerez, probablement, » dit-elle. « Et vous mangerez, chanterez, observerez les vagues. Tout ce que vous faites actuellement, sauf que vous aurez davantage de temps pour accomplir tout ça, étant donné que vous ne trébucherez plus sur une jeune fille qui dessine assise sur votre pont en marmonnant toute seule. Mais je vous remercie, capitaine, pour ce voyage formidable, quoique un peu excessif dans sa durée. »
Il la salua en inclinant de nouveau son bonnet. Chalan sourit. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il soit aussi libérateur de voyager seule. Ses frères avaient redouté qu'elle ait peur. Ils la croyaient timide parce qu'elle n'aimait pas se disputer et gardait le silence au milieu des grands groupes. Et peut-être l'était-elle bel et bien. Se trouver loin de Jacques et Vède était intimidant. Mais c'était également merveilleux. Elle avait rempli 3 carnets de croquis avec les créatures et les gens qu'elle avait vus, et bien que son inquiétude pour les finances de sa maison assombrisse constamment son humeur, l'extase pure que lui procurait l'expérience compensait en partie. Tosbeck entreprit de tout organiser à quai pour son navire. C'était un brave homme. Quant à ses louanges vis-à-vis de sa beauté supposée, elle les prenait pour ce qu'elles étaient, une marque d'affection délicate, quoique exagérée. Elle était pâle de peau, à une époque où le hâle à laitie était considéré comme un critère de beauté véritable, et bien qu'elle possède des yeux bleu clair, ses cheveux au beurre ne trahissaient sa lignée impure. Pas une seule mèche de noir convenable. Ses taches de rousseur s'étaient estompées alors qu'elle atteignait l'âge adulte, les héros soient loués, mais certaines parsemaient encore visiblement ses joues et son nez.
« Jeune demoiselle, » lui dit le capitaine après s'être entretenu avec ses hommes, « la clarissime Jasna sera certainement au conclave, voyez-vous ?»«
Ah, là où se trouve le palanais ?»«
Oui, oui, et le roi y vit aussi. C'est le centre de la ville, pour ainsi dire. Sauf qu'il se trouve au sommet. »
Il se gratta le menton.
« Enfin bref, la clarissime Jasna Colline est la sœur d'un roi. Elle ne logera nulle part ailleurs, pas à Carbrante. Yalb ici présent va vous montrer le chemin. Nous pourrons vous livrer votre mal plus tard. »«
Merci beaucoup, capitaine, » dit-elle.
« Shailor Mkabat Nour. »
Les vents nous ont conduits à bon port. Une formule de remerciement dans la langue thaïlène. Le capitaine afficha un large sourire.
M'kaibade fortentis.
Elle ignorait ce que ça signifiait. Son thaïlène était très bon lorsqu'elle lisait, mais l'entendre parler était parfois totalement différent. Elle lui sourit, ce qui sembla la réaction adéquate, car il éclata de rire et fit un signe à l'un de ses marins.
Nous allons attendre à ce quai pendant 2 jours, lui dit-il. Une tempête majeure se prépare pour demain, voyez-vous? Donc nous ne pouvons pas partir. Si la situation par rapport à la clarissime Jasna ne se déroule pas comme nous l'espérons, nous vous ramènerons à Jacques et Vède.
Merci, encore une fois.
Mais de rien, jeune demoiselle, répondit-il. Ce n'est rien que nous n'aurions fait de toute manière. Nous pouvons récupérer des marchandises, ce genre de choses. Et puis vous m'avez donné un bien joli portrait de ma femme pour ma cabine. Très réussi.
Il s'approcha de Yalb pour lui donner des consignes.
Shallan patienta tout en rangeant son carnet dans sa pochette à dessin en cuir. Yalb. Un nom difficile à prononcer pour sa langue védène. Pourquoi les Thaïlènes aimaient-ils tellement à coller des lettres sans voyelles? Yalb fit signe à Shallan. Elle le rejoignit.
Faites bien attention à vous, jeune fille.
La mit en garde le capitaine lorsqu'elle passa devant lui.
Même une ville sûre comme Carbrant cache des dangers.
Ouvrez l'œil.
Je préférais plutôt ouvrir les deux, capitaine,
répliqua-t-elle en s'avançant prudemment sur la passerelle.
Si je n'en ouvre qu'un, je risque de ne pas voir si un brigand armé approche de moi du mauvais côté.
Le capitaine éclata de rire et la salua, tandis qu'elle descendait la passerelle, tenant la rampe de sa libre main. Comme toutes les femmes vaurines, elle gardait couverte sa main gauche, sa sage main, n'exposant que sa libre main. Les femmes sombres iris du peuple portaient un gant. Mais on attendait d'une femme de son rang qu'elle se plie davantage aux convenances. Elle conservait donc sa sage main couverte par l'ample manchette de sa manche gauche qui était boutonnée. La robe était d'une coupe vaurine traditionnelle, ajustée au niveau du buste, des épaules et de la taille, avec une jupe flottante en dessous. Elle était de soie bleue avec des boutons en coquille de chule sur les côtés, et Shallan serrait sa sacoche contre sa poitrine à l'aide de sa sage main tout en tenant la rampe de sa libre main. Elle descendit de la passerelle dans la furieuse activité des quais, messagers courant dans tous les sens, femmes en manteau rouge qui prenaient note des cargaisons dans des cahiers. Carbrant était un royaume vaurin, comme Aletkar et le Jacquevet de Shallan. Ici, les gens n'étaient pas païens, et l'écriture était un art féminin. Les hommes n'apprenaient que les glyphes, laissant les lettres et la lecture à leurs épouses et à leurs sœurs. Bien qu'elle n'ait pas posé la question, elle avait la certitude que le capitaine Tosbeck savait lire. Elle l'avait vu tenir des livres, ce qui l'avait mise mal à l'aise. La lecture était inconvenante pour les hommes, du moins ceux qui n'étaient pas des ardents.
« Voulez-vous y aller à cheval ?»
lui demanda Yalb, dont le dialecte thaïlène était chargé d'un accent si lourd qu'elle peinait à distinguer les mots.
« Oui, s'il vous plaît. »
Il hocha la tête et s'éloigna précipitamment, la laissant sur les quais au milieu d'un groupe de parches qui transportaient laborieusement des tonneaux de bois d'un embarcadère à l'autre. Les parches n'étaient pas très futées, mais ils faisaient d'excellents travailleurs. Ils ne se plaignaient jamais, obéissaient à tout ce qu'on leur disait. Le père de Shallan les préférait aux esclaves ordinaires. Les Alétis combattaient-ils réellement des parches dans les plaines brisées? Shallan trouvait cette idée tellement étrange. Les parches ne se battaient pas. Ils étaient dociles et quasiment muets. Plus forts, plus grands, plus vifs d'esprit. Peut-être n'étaient-ils pas réellement des parches, simplement des parents éloignés. À sa grande surprise, elle voyait des signes de vie animale tout autour des quais. Quelques anguilles célestes ondulaient dans les airs, en quête de rats ou de poissons. Des crabes minuscules se cachaient entre des fissures dans les planches du quai, et un amas de aspers s'accrochait aux bûches épaisses. Dans un renfoncement des quais, un vison rôdait furtivement parmi les ombres, guettant des morceaux tombés à terre. Elle ne put résister à l'envie d'ouvrir sa pochette à dessin et d'esquisser le croquis d'une anguille céleste en train de bondir. L'anguille n'avait-elle pas peur de tous ces gens? Shallan tenait le carnet de sa sage main, refermait ses doigts cachés en haut de la page, tandis qu'elle dessinait à l'aide d'un crayon de charbon. Avant qu'elle en eût fini, son guide revint accompagné d'un homme tirant un étrange engin muni de deux larges roues et d'un siège recouvert d'un baldaquin. Elle baissa son carnet, hésitante. Elle s'était attendue à un palanquin. L'homme qui tirait la machine était de petite taille et avait la peau sombre, avec un large sourire et des lèvres charnues. Il fit signe à Shallan de s'asseoir et elle s'exécuta avec la grâce modeste que ses nourrices lui avaient imprimée. Le chauffeur lui posa une question dans une langue aux sonorités sèches et brusques qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'a-t-il dit ? » demanda-t-elle à Yalb.
« Il veut savoir si vous préférez emprunter l'itinéraire court ou long. »
Yalb se gratta la tête.
« Je ne sais pas trop quelle est la différence. »«
J'imagine que l'une des deux manières prend plus de temps, » répondit Shallan.
« Ah, quelle maligne !»
Yalb adressa quelques mots au porteur dans cette même langue brusque
et l'homme lui répondit. « Le long vous donnera une bonne vue de la ville, » dit Yalb. « Le court va droit au conclave. Pas beaucoup de belles vues, d'après lui. Il a dû remarquer que vous étiez nouvelle en ville. »
« Je me distingue à ce point ?» demanda Shallan en rougissant.
« Non, bien sûr que non, clarissime.
Vous voulez dire par là que je suis aussi flagrante qu'une verrue sur le nez d'une reine ?»
Yalb éclata de rire. « Je le crains. Mais on ne peut pas se rendre quelque part une deuxième fois sans y être venu une première, j'imagine. Tout le monde doit bien se distinguer à un moment ou un autre, alors autant le faire d'une aussi jolie manière que vous. »
Elle allait devoir s'habituer à la façon dont les marins badinaient gentiment avec elle. Ils ne faisaient jamais preuve d'effronterie, et elle soupçonnait la femme du capitaine de leur avoir parlé avec sévérité lorsqu'elle avait vu à quel point il faisait rougir Shallan. Dans le manoir de son père, les serviteurs, même ceux qui étaient des citoyens à part entière, craignaient d'avoir des comportements déplacés. Le porteur attendait toujours une réponse.
« L'itinéraire court, s'il vous plaît, » dit-elle à Yalb, malgré son envie de voir le chemin le plus touristique.
Elle se trouvait enfin dans une véritable ville, et elle prenait le trajet le plus direct. Mais la clarissime Jasna s'était révélée aussi fuyante qu'un cantillon sauvage. Mieux valait faire vite. La chaussée principale traversait le flanc de colline en épingle à cheveux, si bien que même l'itinéraire court lui laissa le temps de voir une grande partie de la ville. Elle se révéla fabuleusement riche en individus et spectacles étranges, ainsi qu'en sons de cloches. Shallan se laissa aller en arrière pour tout absorber. Les bâtiments étaient regroupés par couleurs qui semblaient indiquer leur usage. Les boutiques vendant les mêmes articles étaient peintes dans les mêmes tons, violet pour les vêtements, vert pour les aliments. Les maisons possédaient leur propre schéma, bien que Shallan ne parvienne pas à l'interpréter. Les couleurs étaient douces, avec une tonalité délavée, assourdie. Yalb marchait le long de sa charrette, et le porteur se mit à parler derrière lui à l'intention de Shallan. Yalb lui traduisit ses propos, main dans les poches de son gilet. « Il dit que la ville est spéciale grâce à son lait. » Shallan acquiesça. De nombreuses villes étaient construites dans des laits, des zones protégées des tempêtes majeures par des formations rocheuses proches. Carbrant est l'une des grandes villes les plus abritées du monde, poursuivit Yalb, traduisant toujours, et c'est ce que symbolisent les cloches. On dit qu'elles ont été conçues initialement pour prévenir de l'arrivée d'une tempête majeure, car les vents étaient si doux que les gens ne s'en rendaient pas toujours compte. Yalb hésita. Il raconte simplement ces choses-là parce qu'il veut un gros pourboire, clarissime. J'ai déjà entendu cette histoire, mais je la trouve d'une vantardise grotesque. Si les vents soufflaient assez fort pour faire bouger des cloches, les gens s'en apercevraient. Et puis ils doivent bien se rendre compte qu'il leur pleut sur la tête, ces fanfarons. Shallan sourit. Ne vous en faites pas. Il peut poursuivre. Le porteur bavarda de sa voix brusque. Quelle était cette langue déjà? Shallan écouta la traduction de Yalb, s'imprégnant des images, des sons et, malheureusement, des odeurs. En grandissant, elle s'était habituée à l'odeur nette des meubles fraîchement dépoussiérés et du pain sans levain en train de cuire dans les cuisines. Son voyage en mer lui avait appris de nouvelles odeurs, d'embrun et d'air marin propre. Il n'y avait rien de propre dans ce qu'elle sentait ici. Chaque ruelle qu'il traversait possédait une gamme unique de puanteurs répugnantes. Elles alternaient avec les odeurs épicées de la nourriture des vendeurs de rue, et la juxtaposition était encore plus écœurante. Fort heureusement, son porteur pénétra dans la partie centrale de la chaussée et les puanteurs s'apaisèrent, bien que la manœuvre les ralentisse en les obligeant à affronter une circulation plus dense. Elle regardait les passants bouche bée. Ces hommes aux mains gantées et à la peau légèrement bleuâtre venaient de Natanatan. Mais qui étaient ces gens majestueux et de haute taille vêtus de robes noires? Et ces hommes à la barbe attachée par des cordons en forme de bâtonnets? Les bruits rappelaient à Shallan le cœur discordant des cantillons sauvages près de chez elle, mais multipliés en variété ainsi qu'en volume. Une centaine de voix s'appelaient mutuellement, mêlées au claquement des portes, au bruit des roues sur la pierre, au cri occasionnel des anguilles célestes. Les cloches omniprésentes tintaient à l'arrière-plan, plus fortes quand le vent soufflait. Elles s'affichaient dans la vitrine des boutiques ou pendaient au chevron des bâtiments. Une petite cloche était accrochée à chaque montant de lanterne le long de la rue, juste en dessous de la lampe, et la charrette de Chalanne possédait une petite cloche argentée au sommet du baldaquin. Alors qu'elle avait gravi la moitié de la colline, une vague sonore et houleuse de cloches sonna l'heure. Les cloches du carillon, dépareillées et désynchronisées, produisaient un vacarme métallique. La foule s'éclaircit lorsqu'ils atteignirent le quartier le plus élevé de la ville et son porteur finit par l'attirer jusqu'à un bâtiment massif tout au sommet de la cité. Peint en blanc, il était taillé à même la façade rocheuse plutôt que construit à l'aide de briques ou d'argile. Les colonnes situées à l'avant semblaient pousser directement de la pierre, et l'arrière du bâtiment se fondait naturellement dans la falaise. Les affleurements du toit étaient coiffés de dômes trapus et peints de couleurs métalliques. Des femmes pâles iris entraient et sortaient. Portant des outils de scribe et vêtues de robes pareilles à celles de Chalanne, la main gauche soigneusement couverte. Les hommes qui entraient dans le bâtiment ou en sortaient portaient des manteaux vorins de style militaire et des pantalons à midonnées, avec des boutons sur le côté et un col raide qui leur enveloppait entièrement le cou. Beaucoup portaient une épée à la taille, accrochée à un ceinturon qui entourait leur manteau tombant à longueur du genou. Le porteur s'arrêta et fit un commentaire à Yalb. Le marin se mit à se disputer avec lui, main sur les hanches. Chalanne sourit devant son expression terne et cligna des yeux d'un air appuyé, gravant la scène dans sa mémoire pour la dessiner plus tard. « Il propose de partager la différence avec moi si je le laisse augmenter le prix du trajet », expliqua Yalb, tout en secouant la tête et en tendant la main pour aider Chalanne à descendre de la charrette. Une fois à terre, elle regarda le porteur qui haussa les épaules, souriant comme un enfant surpris à chaparder des friandises. Elle serra sa sacoche à l'aide de son bras à l'ample manchette et se mit à y fouiller de sa libre main en quête de sa bourse. « Combien faudrait-il que je lui donne ?»« 2 claires brisures devraient largement suffire. Je lui en aurais offert une. Ce voleur voulait en demander 5. » Avant ce voyage, elle n'avait jamais utilisé d'argent. Elle se contentait d'admirer les sphères pour leur beauté. Chacune se composait d'une perle de verre un peu plus grande qu'un ongle, avec une gemme beaucoup plus petite sertie au centre. Les gemmes pouvaient absorber la fulgiflamme, ce qui faisait briller les sphères. Lorsqu'elle ouvrit la bourse, des éclats de rubis, d'émeraudes, de diamants et de saphirs lui brillèrent au visage. Elle piocha 3 brisures de diamants, l'unité la plus petite. Les émeraudes étaient les plus précieuses, car les spiricantes pouvaient s'en servir pour créer de la nourriture. La partie vitreuse de la plupart des sphères était de même taille. C'était la taille de la gemme centrale qui en déterminait la valeur. Les 3 brisures, par exemple, ne possédaient chacune qu'un minuscule éclat de diamant au centre. Mais il était toutefois suffisant pour briller de fulgiflamme, d'un éclat bien plus faible que celui d'une lampe, mais visible malgré tout. Il fallait 5 brisures pour faire une marque. Elle n'avait emporté que des sphères infusées, car elle avait entendu dire que les éteintes étaient considérées comme suspectes et qu'il fallait parfois appeler un prêteur sur gage pour juger de l'authenticité de la gemme. Elle gardait les sphères les plus précieuses dans sa sage bourse, bien sûr, qui était boutonnée à l'intérieur de sa manche gauche. Elle tendit les 3 brisures à Yalb, qui inclina la tête. Elle fit signe au porteur, rougissant lorsqu'elle comprit qu'elle avait, par réflexe, utiliser Yalb comme intermédiaire maître-serviteur. En prendra-t-il ombrage ? Il éclata de rire et se redressa avec raideur, comme s'il imitait le maître-serviteur, gratifiant le porteur d'une expression faussement sévère. Le porteur éclata de rire, s'inclina devant Chalanne, puis éloigna sa charrette. « C'est pour vous, » dit Chalanne en sortant une marque de rubis qu'elle tendit à Yalb. « C'est trop, clarissime !» « C'est en partie pour le remercier, dit-elle. Mais aussi pour vous payer, afin que vous restiez ici et que vous attendiez quelques heures, au cas où je reviendrai. » « Attendre quelques heures pour une marque feu, c'est le salaire d'une semaine en mer. Alors ça devrait suffire à vous convaincre de ne pas vous éloigner. Je serai là, » répondit Yalb, avant de la gratifier d'une révérence élaborée, étonnamment bien exécutée. Chalanne inspira profondément et monta d'un pas vif les marches menant à l'imposante entrée du conclave. la pierre taillée était réellement remarquable. L'artiste en elle avait envie de s'attarder pour l'étudier, mais elle n'osa pas. Pénétrer dans ce grand bâtiment donnait l'impression de se faire engloutir. Le couloir interne était bordé de lampes à fulgiflammes qui diffusaient une lumière blanche. On devait y avoir serti des bromes de diamants. La plupart des bâtiments à la construction soigneuse recouraient à la fulgiflamme pour fournir de l'éclairage. Un brome, l'unité de sphère la plus élevée, brillait du même éclat que plusieurs bougies. Leur lumière brillait d'un éclat doux et régulier. Sur les nombreux serviteurs, scribes et palsiris qui se déplaçaient dans le couloir. Le bâtiment semblait être construit sous la forme d'un tunnel haut, large et long, enfoui dans la roche. Des pièces majestueuses le bordaient des deux côtés, et des couloirs subsidiaires partaient de la grande promenade centrale. Elle s'y sentait bien plus à son aise qu'à l'extérieur. Cet endroit, avec ses serviteurs affairés et ses clarissimes de barons, lui était familier. Elle leva sa libre main pour attirer l'attention, et comme elle s'y attendait, un maître serviteur vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon noir se précipita vers elle.
« Oui, clarissime ?»
demanda-t-il dans la langue védène natale de Chalan, sans doute à cause de la couleur de ses cheveux.
« Je cherche Jasna Colline, » dit Chalan. « J'ai entendu dire qu'elle se trouvait entre ses murs. »
Le maître serviteur s'inclina vivement. La plupart des maîtres serviteurs s'enorgueillissaient de leur service raffiné. L'attitude même que Yalb a raillé quelques instants plus tôt.
« Je reviens, clarissime. »
Il devait être du deuxième Nan, un citoyen sombre iris de très haut rang. Dans les croyances vorines, la vocation de quelqu'un, la tâche à laquelle on dédiait sa vie, était d'une importance vitale. Choisir une bonne profession et y travailler dur était le meilleur moyen de s'assurer une bonne place dans l'au-delà. Le dévotaire que l'on fréquentait pour faire ses dévotions était souvent lié à la nature de la vocation choisie. Chalan croisa les bras et attendit. Elle avait longuement réfléchi à sa propre vocation. Le choix le plus évident était son art, d'autant qu'elle adorait faire des croquis. Mais elle n'était pas attirée que par le dessin lui-même. C'était l'étude, les questions soulevées par l'observation. Pourquoi les anguilles célestes n'avaient-elles pas peur des gens? De quoi se nourrissaient les aspères? Pourquoi une population de rats se développait-elle si bien dans une zone et si mal dans une autre? Elle avait donc préféré l'histoire naturelle. Elle brûlait de devenir une véritable érudite, de recevoir une véritable instruction, de passer du temps plongé dans les recherches et les études. Était-ce en partie ce qui l'avait poussée à suggérer le plan audacieux consistant à partir à la recherche de Jasna et à devenir sa pupille? Peut-être. Cependant, il lui fallait rester concentré. Devenir la pupille de Jasna, et par conséquent son étudiante, n'était qu'une étape. Elle y réfléchit, tandis qu'elle se dirigeait distraitement vers une colonne, utilisant sa libre main pour tâter la pierre polie. Comme la majeure partie de Rochard, à l'exception de certaines régions côtières, Carbrant était bâti sur une étendue ininterrompue de pierres brutes. Les bâtiments situés à l'extérieur avaient été construits directement sur la pierre, et celui-ci la traversait. La colonne était de granit, devina-t-elle, malgré ses connaissances rudimentaires en géologie. Le sol était couvert de longs tapis orange brûlé. La matière était dense, conçue pour paraître riche, mais supportait une circulation abondante. Le large couloir rectangulaire dégageait une impression de vieillesse. D'après ce qu'elle avait lu dans un livre, Carbrant avait été fondé longtemps auparavant, en plein cœur des jours obscurs, des années avant l'ultime désolation. Si c'était le cas, elle était effectivement très vieille. Vieille de milliers d'années, bâtie avant les terreurs de la hiérocratie, et même longtemps avant la félonie. À l'époque où l'on racontait que les néantifères au corps de pierre arpentaient la terre.
« Clarissime ?»
demanda une voix. Chalan se retourna pour découvrir que le serviteur était de retour.
« Par ici, Clarissime !»
Elle hocha la tête à l'adresse du serviteur, qui lui fit traverser rapidement le couloir encombré. Elle réfléchit à la meilleure manière de se présenter à Jasna. Cette femme était une légende. Même Chalan, qui vivait dans les territoires lointains de Jacquéved, avait entendu parler de la sœur hérétique et brillante du roi Aleti. Jasna n'avait que 34 ans,
mais beaucoup estimaient qu'elle aurait obtenu le titre de maîtresse érudite sans son énergique condamnation de la religion. Plus spécifiquement, elle dénonçait les dévotaires, les diverses assemblées religieuses que rejoignaient les Vaurins, bien comme il faut. Ici, les railleries inconvenantes ne seraient pas d'une grande utilité à Chalanne. Elle allait devoir s'en tenir à la bienséance. Devenir la pupille d'une femme de grand renom était le meilleur moyen de pouvoir se faire enseigner les arts féminins. Musique, peinture, écriture, logique et science. C'était très semblable à la façon dont un jeune homme recevait une formation dans la garde d'honneur d'un clarissime qu'il respectait. Chalanne avait, au départ, écrit à Jasna pour lui demander sa tutelle, par désespoir. Elle ne s'était pas réellement attendue à ce qu'elle lui réponde par l'affirmative. Lorsqu'elle l'avait fait, par le biais d'une lettre lui ordonnant de la rejoindre à Doumadari 2 semaines plus tard, Chalanne avait été stupéfaite. Elle était à la recherche de cette femme depuis. Jasna était une hérétique. Exigerait-elle que Chalanne renonce à sa foi? Elle doutait de pouvoir faire une telle chose. Les enseignements vaurins concernant la gloire et la vocation de chacun avaient été l'un de ses refuges lors des jours difficiles où son père était au plus mal. Ils empruntèrent un passage plus étroit pour pénétrer dans des couloirs de plus en plus éloignés de la caverne principale. Enfin, le maître serviteur s'arrêta à un coin et fit signe à Chalanne de poursuivre. Des voix provenaient du couloir sur sa droite. Chalanne hésita. Parfois, elle se demandait comment les choses en étaient arrivées là. Elle était la plus silencieuse, la plus timide, la plus jeune d'une fratrie de 5 et la seule fille. Protégée et à l'abri depuis toujours. Et désormais, les espoirs de sa maison tout entière reposaient sur ses épaules. Leur père était mort, et il était capital que la nouvelle reste secrète. Elle n'aimait pas repenser à ce jour-là. Elle le chassait quasiment de ses pensées et s'entraînait à penser à d'autres choses. Mais les effets de cette perte étaient difficiles à ignorer. Il avait fait de nombreuses promesses. Certaines étaient des accords commerciaux, d'autres des pots de vin, dont certains de la seconde catégorie étaient déguisés pour ressembler à la première. La maison d'Avar devait de grandes quantités d'argent à un grand nombre de gens. Et sans son père pour les apaiser tous, les créanciers commenceraient bientôt à faire des réclamations. Il n'y avait personne vers qui se tourner. Sa famille, essentiellement à cause de son père, était haïe même de ses propres alliés. Le haut prince Valam, le clarissime auquel sa famille prêtait allégeance, était souffrant et ne leur offrait plus la même protection qu'auparavant. Lorsque les gens apprendraient que son père était mort et la famille en faillite, ce serait la fin de la maison d'Avar. Elle se ferait soumettre et absorber par une autre maison. En guise de châtiment, on les tuerait à la tâche. En réalité, ils risqueraient peut-être même l'assassinat par des créanciers mécontents. C'était à Chalanne qu'il revenait de l'empêcher, et la première étape passait par Jasna Colline. Chalanne inspira profondément, puis emprunta le couloir d'un pas vif.